Et comme convenu, surtout comme tous les jeudis, je reçois le docteur Atman Lorabi, qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique. On parle de paranoïa, on tente de la définir. On parle également de ses causes. Docteur Atman Lorabi, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Karima, merci pour l'invitation et tout le plaisir est pour moi.
Alors tout d'abord, docteur, que veut-on dire quand on parle de paranoïa ?
C'est vrai que c'est un terme qui est utilisé très couramment, hein, maintenant dans le langage un peu familier, pour désigner un peu tout et n'importe quoi. Mais moi, ce que je vous propose comme définition de la paranoïa, c'est quand la personne fait preuve d'une méfiance exagérée et inappropriée vis-à-vis d'autrui, avec le fait de lui attribuer de mauvaises intentions. Voilà, ça c'est, je pense, une définition simple mais assez complète, parce que quand on parle juste de méfiance exagérée, ça peut recouvrir la peur, les gens qui ont juste peur d'être mal jugés, des choses comme ça. Et là, bon, on n'est pas du tout dans la paranoïa, on est plutôt dans un trouble anxiété sociale, etc. Et ce qui est vraiment très important, c'est le fait qu'on perçoit dans l'autre, l'intention de nous nuire. D'accord. Et cette intention de nous nuire, elle revient dans des thématiques plus ou moins récurrentes, c'est-à-dire qu'on profite de nous d'un point de vue financier, qu'il y ait tromperie d'un point de vue conjugal ou même amical, le fait qu'on cherche à nous humilier, c'est des choses qui reviennent très très souvent et qui vont induire un type de fonctionnement assez particulier, dans la mesure où ce sont des personnes si on parle de paranoïa au sens de personnalité paranoïaque, parce que quand on recherche bien dans les classifications, la paranoïa désigne d'abord et avant tout un trouble de la personnalité, c'est la personnalité paranoïaque. Après, ces symptômes dont je vous parlais, que je vous définissais avec la méfiance, elles peuvent faire irruption chez quelqu'un qui jusque-là fonctionnait tout à fait correctement, était bien psychiquement, psychologiquement, plus ou moins est adapté. Et puis, il se passe un épisode qui peut être de plusieurs natures, c'est-à-dire en termes de diagnostic médical sous-jacent, on y reviendra après, un épisode où cette personne va commencer à développer de manière aiguë et relativement brutale ces craintes-là dont je vous parlais. Et à ce moment-là, on va parler de délire paranoïaque. C'est juste là la toute petite nuance qu'il y a entre les deux termes, sachant que l'un et l'autre sont liés. Donc, la paranoïa, c'est vraiment ça, c'est la méfiance, parce qu'on craint que la personne, dans notre interaction avec elle, va chercher à nous nuire, va chercher à diminuer de notre valeur, ou ne sera pas honnête vis-à-vis de nous. Petite précision, cependant, c'est que, assez classiquement, quand on parlait de personnalité paranoïaque, on avait tendance à y inclure le fait d'avoir un ego surdimensionné, c'est-à-dire un orgueil exagéré. Ça, c'est quelque chose, oui, qui est décrit, qui est fréquent, mais qui n'est pas obligatoire, hein, pour parler de paranoïa, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne rentrent pas dans cette image d'ego surdimensionné, etc., mais qui ont ces craintes persécutoires d'ordre paranoïaque.
Et docteur Atman Lorabi, quelles sont les causes justement de cette paranoïa ? D'où vient-elle ?
Alors, le plus souvent, quand on parle de structure de personnalité, si on parle d'une personnalité, donc c'est-à-dire des modalités d'interaction et de réponse affective, etc., qui vont s'installer au début de l'âge adulte, c'est un trouble de la personnalité, c'est souvent des abus, des traumatismes, vraiment de grosses difficultés pendant l'enfance. Ça, on retrouve ça de manière générale dans tous les troubles de la personnalité, avec des notions de surtout les notions d'abus physique, de violence, etc., et d'abandon. Hein. Donc, ça, c'est pour les troubles de la personnalité. Après, au niveau de la personne qui va déclarer, entre guillemets, un délire paranoïaque, hein, c'est ça dont on parlait tout à l'heure, il va s'agir plutôt, en termes d'épidémiologie, d'hommes, beaucoup plus que des femmes, à un âge mûr, hein, c'est-à-dire autour de 40-50 ans. Et c'est quelque chose qui va se déclarer au cours d'un événement de vie qui est extrêmement péjoratif et stressant, très stressant, pour ne pas dire traumatisant. Par exemple, une séparation conjugale, un licenciement, un deuil, ce genre de choses va former le lit de l'apparition donc de ces délires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que préférentiellement, ces délires paranoïaques apparaissent sur les personnalités paranoïaques ou à tendance paranoïaque. Hein, c'est ce qu'on observe le plus souvent. Et justement, quand on parle aussi de personnalité paranoïaque, on retrouve aussi une prépondérance chez les hommes davantage que chez les femmes.
D'accord. Et docteur, lors d'un précédent échange, on avait parlé de la schizophrénie et le fait qu'elle faisait peur à plusieurs personnes, justement à cause des zones d'ombre autour de la schizophrénie qui portait à confusion. Est-ce que c'est le cas de la paranoïa aussi? Et dans ce sens, est-ce qu'une personne paranoïaque peut représenter un danger pour son entourage?
C'est bien là la différence majeure entre schizophrénie et paranoïa. Enfin, entre guillemets, une des grandes différences, c'est que souvent on associe l'image de la personne schizophrène à quelqu'un d'extrêmement dangereux, alors que c'est plutôt quelque chose à appliquer à la paranoïa. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une dangerosité qui est bien sûr dépendante de plein d'autres paramètres, qui est dépendante aussi du fait de est-ce que c'est qu'une, on est en train de parler d'une structure de personnalité qui est là depuis très longtemps et qui s'aggrave, ou plutôt juste quelque chose, un épisode qui apparaît au cours d'une dépression. Ça peut arriver, hein, c'est ça, ce que la paranoïa peut arriver au cours d'une dépression qui n'a pas été soignée, qui a été négligée. C'est assez fréquent, donc, et il faut dissocier aussi la paranoïa, aussi l'autre idée reçue. La paranoïa, il faut la dissocier de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est effectivement, il y a des idées d'ordre paranoïaque, c'est-à-dire une crainte persécutoire, mais il n'y a pas de logique derrière, c'est-à-dire même la personne, quand on discute avec elle, elle n'arrive pas à argumenter en quoi la personne représente un danger. À l'inverse, quand on parle d'un délire paranoïaque, la personne peut argumenter et on peut même trouver une certaine logique, hein, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est juste de l'ordre de l'intuition, hein, c'est beaucoup d'interprétation, beaucoup de jugement, et c'est aussi là le problème de la personnalité paranoïaque, c'est que elle revient rarement sur ses jugements, hein, elle accorde beaucoup d'importance à ses jugements, c'est peut-être là la dimension égo surdimensionnée, et donc quand quelqu'un est dans une conviction presque logique, ben, qu'il y a un tel ou une telle qui lui fait ceci et cela afin de lui nuire, eh bien, il peut y avoir des passages à l'acte violent.
Et docteur Atmal Lorabi, est-ce qu'on peut guérir d'une paranoïa?
Dans l'absolu, oui, on peut, si vraiment on fait l'effort et qu'on travaille en thérapie et à l'aide de médicaments quand il y a des épisodes dépressifs ou des moments où ça va plus mal, etc. Oui, ça peut aller mieux, mais le vrai problème, c'est que les personnes qui souffrent de ce genre de troubles, surtout de personnalité, et même à l'occasion d'exacerbations délirantes, ne recourent pas aux médecins. Et même quand il y a un recours aux médecins, c'est pour résoudre une situation de crise, donc c'est pour un peu contraindre la personne aux soins, mais le problème, c'est que le soin ne se poursuit pas. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans ce genre de fonctionnement ne se reconnaissent pas comme étant en souffrance et donc ne vont pas chercher l'aide médicale qui est convenable, mais vont chercher plutôt des actions à mener dans le cadre de leur vie des paranoïaques, justement.
Et docteur Atmal Lorabi, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a affaire à une personne paranoïaque, et qu'est-ce qu'au contraire il ne faut surtout pas faire?
J'ai envie de vous dire, quand on est face à une personne paranoïaque, il faut essayer de diminuer le minimum possible, enfin au maximum possible, les interactions. Hein, pour dire les choses un peu plus crûment, il faut essayer d'éviter ces personnes-là. Et puis, bon, quand on est obligé d'interagir, il faut adopter ce que j'appelle la position faible, c'est-à-dire la position basse, pardon. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir raison, voilà. Et bon, quelquefois, ce sont des rencontres qui sont surtout sur le milieu professionnel. Et donc, oui, il faut adopter cette position basse, hein, et ne pas être dans la confrontation, c'est ce qui permet de gérer au mieux. Mais dans l'absolu, voilà, c'est extrêmement difficile d'être en interaction avec quelqu'un qui présente ce genre de troubles. C'est vraiment épuisant d'un point de vue émotionnel parce qu'on se retrouve souvent à être accusé de choses qui ne sont pas vraies et qui nous mettent en souffrance et qui mettent en péril, ben, justement, la relation avec cette personne, surtout si c'est une relation familiale ou conjugale.
Docteur Atmel Lorabi, comme à chaque fin d'échange, quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement, qui souffriraient de paranoïa ou qui connaissent quelqu'un de leur entourage proche qui souffrirait justement de paranoïa?
C'est surtout ça, c'est surtout l'entourage proche, c'est que voilà, il faut essayer d'être soutenant, et essayer de proposer l'aide médicale à chaque fois que cela paraît comme étant nécessaire, dans le sens où quand la personne va plus mal, etc. Quelquefois ça marche. Mm-hmm. Je vous parle sérieusement, vraiment quelquefois ça marche. Et puis on arrive un petit peu à améliorer, l'état de la personne, et dépendamment bien sûr du diagnostic, parce que quelquefois on peut avoir des épisodes comme ça paranoïaques au décours d'une maladie bipolaire. Bon, là bien sûr les gens qui vont être dans ces éléments-là, qui sont pas dans la paranoïa pure, oui, vont aller voir le médecin et vont se faire soigner et vont prendre conscience que c'était quelque chose qui était le fruit un peu d'un dysfonctionnement cérébral et psychique. Mmh. Voilà. À l'inverse, quand on parle de paranoïa, donc de troubles de la personnalité, voilà, il faut y aller avec beaucoup de précautions et ne surtout pas être dans la confrontation et dans l'obligation d'aller voir le médecin.
C'est noté, docteur Atmel Lorabi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était un plaisir encore une fois d'échanger avec vous et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau sujet.
Tout plaisir est pour moi. Au revoir.
Au revoir, docteur.